Parce que ça fait plus la gueule à nard, ça m'était.
Bien, bonjour à vous qui êtes là pour cette table ronde sur la radioactivité entre mythe et réalité. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons parmi nous Pierre Bordage, un auteur de science-fiction, de fantasy, dont on connaît tous l'approche humaniste du traitement de ces sujets. On lui doit un certain nombre de livres comme Les guerriers du silence, Wang, Les derniers hommes, où là on va retrouver le thème de la radioactivité du nucléaire. Et il est aussi président de l'association des Utopiales. Est-ce que si j'ai dit correctement ?
Ouais. C'est l'association du Festival international de la ville de Nantes.
Parfait. Allez, la troisième fois, je le ferai bien.
Ça marche ? Ça marche ?
Non ? Oui.
Nous avons aussi parmi nous Jeanne Debat, qui est Debat, qui est auteur de science-fiction. On lui doit un certain nombre de nouvelles comme La vieille anglaise et le continent et des livres comme Eden et sorcier. Novella. Oui. Pardon, c'est pas que ça.
Je suis vraiment désolée.
Non, il n'y a pas à être désolé, faut le dire. Eden en sursis, on lui a La balade de Trash ou L'envol du dragon comme livre. C'est bien des livres.
Ça, c'est des romans.
Des romans.
Jeunesse, en plus.
Mais c'est pas grave, hein.
Non, non, mais...
Que ce soit de la jeunesse, hein, c'est pas grave. C'est bien débile. Et nous avons une scientifique, donc Carole Ecoffé, qui a fait une thèse au CEA, qui travaille au CNRS, qui est conférencière, et comme vous l'avez pu pouvoir profiter de ses talents tout à l'heure. Et qui est aussi fondatrice des Petits Débrouillards, qui fait des activités scientifiques et ludiques pour les enfants.
Et également des débats sciences et citoyens. De plus en plus, cette association se tourne vers cette thématique.
Alors, la radioactivité, alors avec les drames, les derniers drames qui sont arrivés avec Fukushima, on a bien vu quels problèmes cela pouvait avoir, aussi bien en termes médical avec les morts, les irradiés, au niveau économique, avec tout un pays dont l'activité a été presque stoppée, et surtout humain, avec les impacts que peuvent avoir les zones d'exclusion ou tout ça sur les humains. Donc c'est certainement un bon moment pour se retourner un petit peu sur le passé et puis essayer d'observer comment l'homme, depuis la découverte du phénomène à la fin du 19e siècle, jusqu'à maintenant, a oscillé entre la crainte et l'admiration envers la radioactivité, les éléments radioactifs et tout cela, et comment sont apparus autour de ce phénomène qui était au départ très peu connu, des mythes, et de quelle manière la réalité nous a parfois brutalement ramenés à la raison et nous a obligés à changer nos mythes, finalement, face à ce qui se passe. Donc voilà, donc je propose de laisser un petit peu la parole d'abord à Carole Ecoffé pour reparler un petit peu de l'origine, de la découverte, comment on a trouvé la radioactivité. Oui.
Alors bon, je ne suis pas spécialiste de la radioactivité, là ça n'est pas une vraie conférence sur toute l'histoire de la radioactivité, mais sur la thématique science et science-fiction, un moment... Quand il y a eu en particulier Fukushima, en tant que scientifique, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un mauvais rêve. Et tout ce dont on parle souvent de ces catastrophes nucléaires qui étaient là, on savait que c'était un risque. Mais personnellement, je dois reconnaître que je pensais que Tchernobyl, ok, ça a été mal entretenu, mais Fukushima, ça m'a vraiment foutu la trouille. Et j'ai pris conscience que ma vision même de la confiance dans le nucléaire, ou même si je savais qu'il y avait des risques, là on l'a vécu pour de bon. Et en même temps, en parallèle, je fais souvent des conférences un peu sur l'histoire des sciences et je parle souvent de Marie Curie. Et je sentais un peu un décalage entre ce que je racontais sur Marie Curie, le fait d'être content d'avoir trouvé ses propriétés, cette radioactivité, voir que la plupart des scientifiques du XXe siècle qui ont travaillé dans le domaine sont morts du cancer. Ça m'a amené à à remettre en cause la manière dont on a appréhendé la radioactivité. Aujourd'hui, on sait que c'est dangereux. Mais je me suis dit, mais au départ, quand Becquerel a découvert ça, quand Marie Curie a découvert ça, dans quel état d'esprit il pouvait être ? Alors Becquerel, c'était en 1896, il pose de l'uranium sur une plaque et il découvre qu'il y a des rayons qui traversent, qui font qui vont traverser, et il imprime l'image de sa main et on voit les os au travers, et il découvre comme ça le début de la radiographie. Donc il comprend qu'il y a un rayonnement qui est émis par de la matière. Il y a eu des lésions. Il y a eu des lésions, mais on ne pensait pas en termes de cancer. On s'est dit, bon, ça a brûlé une partie. Ensuite, on se dit, bon, bah, ça peut détruire, ça créer des lésions, mais ça peut aussi soigner. Ensuite, donc, on continue à travailler sur la radioactivité. Marie Curie et bien d'autres découvrent les propriétés de cette matière. Et ce qui m'a troublée, c'est le nombre de publicités qu'il y a pu avoir à cette époque sur les propriétés des crèmes radioactives pour faire du bien à la peau. Alors, tout à l'heure, on en discutait, tu as retrouvé une histoire de fontaine où on mettait de l'eau, on mettait du radium, c'est ça, dedans ?
Oui, alors, je sais pas si, est-ce qu'on entend ? Non ? Oui. Oui, alors en fait, en cherchant un petit peu, on trouve des choses hallucinantes. C'est-à-dire que les vertus étaient inconnues. Ce qu'on savait, c'est que ça faisait quelque chose. Ça, les gens ont rapidement compris qu'il y avait quelque chose. Et on a mis la radioactivité à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on vous vendait des fontaines à eau. Donc on mettait de l'eau en haut. Il y avait, comme nous on a maintenant, des choses pour filtrer. Et bien, en fait, là, on faisait passer à travers des filtres de radium pour avoir de l'eau irradiée qui sortait en bas parce que c'était mieux. Mais il y a eu d'autres choses, il y a eu des sous-vêtements pour le ski, c'était formidable pour se tenir chaud. Et bien on avait des sous-vêtements radioactifs. Et alors là, je n'ai pas trouvé la justification scientifique, mais j'ai même trouvé une publicité pour des préservatifs radioactifs. Donc ça a vraiment été mis à toutes les sauces.
Alors c'est clair qu'on est assez troublé. Alors en plus, Marie Curie, pendant la Première Guerre mondiale, s'engage beaucoup sur le front, part et utilise des systèmes de radiographie pour soigner, pour repérer les balles et puis soigner plus facilement les blessés. Donc à la notion de radioactivité, il y a un côté application médicale importante, même si c'est surtout la radiographie, mais on associe ça à quelque chose de bienfaisant. Et il a fallu attendre, je pense que le vrai choc, c'était la Seconde Guerre mondiale, où là, l'énergie atomique va être utilisée complètement différemment. Alors, Einstein avait bien sûr, savait depuis assez longtemps qu'on pouvait utiliser de l'énergie issue de réactions nucléaires pour faire une arme très puissante, mais on n'avait pas mis en place, ça restait des hypothèses. Et on voyait ça comme de l'énergie, mais on n'a pas pensé à toutes les conséquences autres qu'une bombe très forte. Et le gros changement dans la vision de tout ce qui était radioactif, c'était bien sûr Hiroshima.
Alors justement, c'est un peu l'impression que j'ai eue en relisant, en essayant de préparer cette conférence, c'est cette oscillation. C'est un peu ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que la radioactivité, on la trouve, c'est fantastique. Ça permet de faire des choses, effectivement, de la radiographie, on voit bien que ça agit sur la matière, sur aussi bien les semences que les animaux, les humains. Et donc ça devient merveilleux, où on découvre que les effets sont en fait néfastes et qu'il y a, des drames, des maladies qui se développent. Ensuite, on découvre cette notion de superbombe, et ça c'est formidable parce que ça a quand même arrêté la guerre. Donc le premier effet de la bombe atomique, ça a été d'arrêter la guerre. Donc c'était quand même quelque chose de formidable, vu des Américains, je veux dire. quand tu vois des Japonais. Et après, on découvre les effets secondaires. Après quoi, on découvre qu'on peut en tirer de l'énergie. On peut faire des centrales électriques à partir du nucléaire. C'est quand même fantastique. Jusqu'à ce qu'on ait Tchernobyl et Fukushima. Donc, on est en permanence dans cette dualité, dans ce basculement qui est justement, à mon avis, un générateur de mythes. Non, c'est pas de là que naissent les mythes, de quelque chose qu'on ne sache pas si...
L'inquiétude générée par une puissance aussi phénoménale que l'atome. Ce qui est très, très étonnant dans l'atome, je trouve que c'est infiniment petit et c'est infiniment puissant. Et que comme c'est infiniment invisible, finalement, je veux dire, on peut être irradié sans que visuellement il y ait quelque chose de démontré. Et à mon sens, on est dans le même problème dans la génétique. C'est super inquiétant quand tu dis qu'au début on faisait la radioactivité à toutes les sauces parce que c'était un bienfait pour l'humanité. Maintenant on nous dit que les pesticides sont un bienfait pour l'humanité. On nous dit que
non,
les machins.
On nous le dit plus ça.
C'est encore super utilisé par
les nanos,
tout ça. Et tout ça, ce sont des bienfaits pour l'humanité dont on découvrira plus tard tous les aspects négatifs. Et je pense que. À partir du moment où l'homme a inventé le couteau pour chasser, dépecer les animaux et qu'il a tourné contre son semblable, on se rend compte que toutes les inventions technologiques ont leur lot de, ont un versant sombre qui est utilisé à des fins militaires, guerrières, etc. Et que forcément, on peut être qu'inquiet quand une technologie est aussi puissante qu'elle ne tombe dans des mains mal intentionnées. La bombe atomique, évidemment, c'est une inquiétude fondamentale. Quoi. Et l'énergie nucléaire, à ce point puissante et à ce point mal maîtrisée, parce que c'est vrai qu'on pensait jusqu'à, et c'est encore le discours de certains pseudo-scientifiques à la télévision, qu'on maîtrise complètement l'énergie nucléaire. Quand je vois arriver la sécheresse là maintenant, là, et que quand je sais que la Loire refroidit un certain nombre de centrales nucléaires, et que peut-être à cause de la sécheresse, qui est un élément naturel, on ne va pas pouvoir refroidir les réacteurs, et quand on voit ce qui s'est passé à Fukushima au niveau des refroidissements des réacteurs, eh ben, y a de quoi être super inquiet. La maîtrise, soi-disant qu'on est beaucoup plus intelligent que les Japonais, c'est vrai, on est vachement plus intelligent que les Japonais, ils n'ont rien vu arriver, et nous, on maîtrise tout, sauf les éléments naturels. Et voilà, je sais. Non, c'est moi qui l'ai dit, je suis devenu grand si je veux, mais c'est quoi ça? Bon, elle veut parler, voilà, elle peut laisser parler, sinon elle va faire une crise.
Voilà, sinon je vais pleurer. Je rappelle que nous y sommes à Fukushima, que ce sont nos techniciens qui ont au départ entretenu Fukushima. Donc, je suis désolée, je ne suis pas super rassurée de savoir que Areva a quelque chose à voir avec ça. Hein. Et puis, il faut voir aussi qu'on a confié à une entreprise privée la gestion d'un système tellement vital qu'il risque de nous péter la gueule. Je trouve ça très rassurant, pas vous ?
Bien raison de prendre le micro.
Bon, alors,
non, mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde en a pris plein la gueule, quoi. Vraiment, Fukushima, c'est un sacré choc. Et bon, Hiroshima a été un autre choc important. Et ce qui est, alors là, par rapport à la thématique mythe et réalité, moi, ce qui m'intrigue, c'est les suites au niveau romanesque, science-fiction, imaginaire. Puisque c'est après Hiroshima, on a eu quand même Godzilla. Alors là, c'est peut-être plus votre domaine. Quels sont les...
Bon, je prends mon verre.
C'est sûr, moi j'ai tendance à regarder.
En tout cas, le choc, ce choc-là, ouais. Je l'ai eu bien avant, je l'ai eu avec Ray Bradbury. Avec notamment une nouvelle dont tu dois te souvenir toi aussi, Pierre. Non, t'as pas lu du tout Bradbury?
Si, j'ai lu Bradbury, mais j'ai pas lu.
Il y a une nouvelle à propos d'une maison, ça doit s'appeler La Maison, courte, où c'est, en fait, les bombes sont tombées. La maison est une maison domotique parfaite. Et les patrons sont morts, mais elle continue à vivre. À servir le petit déjeuner, à lire, à faire les lectures, à madame, à la dame qui habitait là, à lever le garçon qui habitait là, etc. Et en fait, on voit pendant toute la nouvelle le mécanisme qui se réveille le matin, qui passe la musique préférée de la dame dans un choix qu'elle a. On sent l'odeur des œufs au bacon qu'elle fait. Et puis à midi, on nettoie tous les restes parce que personne ne les a mangés. Le chien arrive, ça y est, il a survécu apparemment. La maison le chasse parce qu'elle ne le reconnaît pas dans le truc éthique familier qui se présente à la porte. Et il y a un incident qui fait que la maison va brûler. Et tout ce qui va rester, c'est le mur où il y a les ombres de la famille qui ont été imprimées par le feu nucléaire. Je devais avoir, allez, 20 ans quand j'ai vu cette nouvelle. Peut-être.
Oui, c'est
vrai. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai pas tout découvert d'un coup à 13 ans. Voilà. Et puis, Red Bradbury. Voilà. Le choc nucléaire, je l'ai eu là. Je l'ai pas maintenant. Je suis pas surprise. Ça fait 30 ans maintenant que, pratiquement, que les Américains m'ont dit que ça allait nous péter la figure. Donc le mythe, c'est pas un mythe. Ça n'a jamais été un mythe pour moi.
C'est très marrant parce que dans Demain les chiens de Simak, il y a une vision de l'atome qui est complètement différente et qui est une vision positiviste. Donc ça a été écrit en 1953. Mm. Et c'est donc pourtant après Hiroshima et Nagasaki. Et où il dit, le titre original de Demain les chiens, c'est City. Pourquoi City? Parce que c'est la dissolution des villes, simplement parce que grâce à l'atome, on a chacun son petit avion atomique. C'est super cool. Et on peut partir à la fin de son boulot, on peut partir chez soi, donc à la campagne, parce que Simak est un terrien, donc un campagnard, et on peut partir chez soi à la campagne, s'installer, donc c'est la fin des villes. Et voilà, c'est une vision de l'atome qui est tout à fait positive et étonnante de la part d'un auteur de SF, c'est-à-dire lui, il l'utilise à des fins de transport, pratique, etc., sans se poser de questions sur ses dangers. Et ça m'avait assez surpris ça, parce que c'est quasiment contemporain à Bradbury.
Mais Simak était un très grand optimiste, hein, quand même, oui. sur la nature humaine. Oui. Donc, ce qui n'est pas le cas de Bradbury, mais alors pas du tout. Mm. Puisque à la fin des chroniques martiennes, les hommes regardent dans le canal pour voir les martiens, et les martiens c'est eux, parce que la Terre a explosé. Mm. Ça y est, on l'a réussi, le grand feu d'artifice final.
Oui. Et je crois qu'il y a, il y a toujours eu cette envie en même temps de maîtriser cette énergie et cette peur. Moi, ça me rappelle un peu le mythe de Prométhée quelque part. On a, sauf que là, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'on ne maîtrise rien du tout. Et jusqu'où ça va, quoi. Autant le feu, certes, ça peut détruire, mais les conséquences sont quand même bien moindres. Alors, je ne sais pas s'il y a un parallèle entre la peur du feu et la peur de la radioactivité, ou si on est... moi, j'ai l'impression qu'on est clairement dans une dimension plus grande, enfin, dans des conséquences plus dramatiques, mais je retrouve les mêmes peurs. Toi, l'envie de maîtriser cette énergie, parce qu'on en a besoin, parce que ça apporte... là, tu parlais de voitures, enfin d'avions atomiques, mais on a ce même discours sur les centrales nucléaires, le nucléaire civil, en disant, mais regardez, on a besoin de cette énergie, regardez tout ce que ça nous apporte. Donc, on ne peut plus dire non complètement.
Attends.
Voilà, alors je ne sais pas,
attends,
justement.
Attends, je te la passe après. Je crois que vraiment, là, si on rentre, dans la question, c'est le nucléaire ou la bougie?
Non, pas mais loin. C'est...
Ah, si, parce que c'est ça que nous disent les tenants de l'atome, oui. Du nucléaire. Et Claude Allègre, voilà. Hein, qui enfourche en gros toutes les balais de sorcières qu'il peut trouver. Moi, je pense que la question, elle n'est pas là, c'est que il y a une centrale nucléaire à côté de Lyon, s'il y a le moindre souci dans ce truc, il va y avoir des milliers de personnes à déplacer. Des milliers de personnes dont on ne saura pas que faire. Économiquement, ça sera même pas... Je ne parle même pas au niveau de l'atome. Hein, mais économiquement parlant, ça sera une catastrophe.
Oui, économiquement et humainement.
Et humainement. Oui. Non, mais dès que ça commence à être une catastrophe économique, juste derrière, tout le monde paye. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est même pas la question du nucléaire ou l'objet, c'est... Il y a un risque tellement énorme que la question c'est est-ce qu'on a le droit de le prendre? Tout simplement. Mm-hmm. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on l'a pris, ça y est.
C'est bon. Oui, on l'a pris, c'est
bon,
ça.
Et puis c'est pas le seul. Sauf que Murphy étant ce qu'il est, ça va péter la gueule aussi.
Attends.
J'aime beaucoup l'optimisme de Jacques.
La manière de tourner là, comme tu dis, on l'a pris. Donc la question, c'est de savoir si on peut encore compenser le fait qu'on l'a pris et arriver à une solution.
Non, mais je pense que à toute crise, à toute chose malheur est bon, et la crise de Fukushima devrait nous inciter à réfléchir fondamentalement sur ce qu'on veut faire de notre monde, quoi. C'est-à-dire, cette énergie qui nous paraît indispensable, est-ce qu'on ne peut pas la vivre autrement? Est-ce qu'on ne peut pas rechercher d'autres solutions? Est-ce qu'on a besoin absolument d'électricité? Oui, sûrement, ne serait-ce qu'en informatique, on ne sait rien, mais... est-ce qu'on ne peut pas réfléchir parce que ce qui domine là, et on prend le risque, pourquoi? Pour des raisons purement économiques, et évidemment l'économie qui gouverne le monde, c'est emmène le monde à sa catastrophe, puisqu'il ne s'agit que de profit, et que le profit, effectivement, si on confie par exemple le nucléaire à des sociétés privées qui vont rechercher le profit à tout prix, ça va diminuer évidemment toutes les protections, toutes les précautions, et évidemment, ça, comme on voit les trains qui arrivent de plus en plus en retard, et les trains qui ont de plus en plus de problèmes parce qu'on diminue tout le personnel d'encadrement. Et donc, pour de simples... Voilà, il faut qu'on arrête de penser en termes économiques. Tant qu'on continuera de penser en termes économiques, on risque à chaque fois la catastrophe.
Et à court terme.
Et à très court terme, bien sûr, parce que l'économie ne pense qu'à court terme. Mais j'ai toujours été intéressé par la différence qu'il y a eu entre les civilisations nomades et les civilisations sédentaires. Nous sommes une civilisation sédentaire qui s'est établie... et donc a besoin d'énergie pour un tas de raisons. Je trouve que la véritable civilisation, c'est la civilisation nomade, parce que la civilisation nomade, quand elle se retire, elle laisse le monde tel qu'elle a trouvé. Nous, on en est strictement incapable maintenant. Donc est-ce qu'il n'y a pas... Évidemment, on ne peut pas revenir à la civilisation nomade, on est d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir maintenant, de mettre tout à plat? Et quand je vois les pseudo-scientifiques type Allègre, qui sont évidemment des suppôts d'Areva et d'autres sociétés, qui empêche véritablement la réflexion et le débat sur l'énergie. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive maintenant à trouver, c'est un débat sans préjuger de la solution, parce qu'on ne sait pas quelle va être la solution, mais on sait que si on continue à gérer un parc nucléaire, on ne parle pas des centrales de l'Europe de l'Est, hein, qui sont dans un état catastrophique.
On a digéré.
Ouais, et que maintenant il faut recouler un sarcophage sur Tchernobyl aussi, enfin, etc., etc. Il faut ne pas oublier que les déchets sont quand même radioactifs pendant plusieurs milliers d'années, ce qui fait courir aussi aux civilisations futures un risque. Est-ce qu'on a le droit de faire prendre ce risque aux civilisations, aux générations futures? Là, il faut vraiment arrêter et dire, ben, réfléchissons vraiment, non pas, non mais on va renforcer la sécurité. Faut pas déconner, quoi.
On a le droit de faire prendre le risque de générations futures. C'est, est-ce qu'on peut encore limiter ce risque qu'on a déjà fait?
Oui, oui, mais il est peut-être temps de l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Peut-être
les Allemands, là, sur ce coup-là.
Non, mais peut-être qu'on a aussi, on peut décélérer et puis essayer d'envisager d'autres solutions. Maintenant, quelles seront les solutions? Je n'ai pas la moindre idée, hein, mais peut-être, Carole.
Ah non.
C'est ton boulot, Carole.
Oui.
Cherche nouvelle énergie. Voilà.
Juste ça, il va y avoir quand même un truc, c'est que de l'uranium, on n'en a plus. Hein.
Oui, c'est vrai.
Que les ressources sont quand même pas si extensibles que ça. Et donc, il va bien falloir trouver autre chose pour nous faire péter la gueule. On va trouver, je suis sûre. On est très fort.
La fusion.
Ah oui, comme dans Vogt.
Des mini-soleils. Ouais. Bon, ça, c'est pas encore au point. Et on est en... Il y a des... Oui, c'est la fusion. Donc la fission, on casse l'atome, et la fusion, voilà. Et ça produit également de l'énergie, simplement le déclencheur allumette pour lancer le truc consomme déjà tellement d'énergie qu'il faut que c'est pas si évident de le mettre en place. Certains croient beaucoup dans cette solution en se disant que là, il n'y a pas les problèmes de radioactivité, il y a une autre réaction nucléaire, mais... Alors, on dit nucléaire, ça n'implique pas de radioactivité. C'est pas... Voilà, c'est... Il n'y a pas forcément d'émission de rayonnement parce que c'est... Enfin, dans cette réaction de...
Soleil, en fait.
Voilà, c'est tout à fait l'équivalent de ce qui se passe dans le Soleil, mais on a production d'énergie, mais on a également... Il y aura également d'autres risques, et pour l'instant, on ne les connaît pas. Donc, même si ça venait à marcher, je ne peux pas dire que ça sera sans risque. Hein. Ça ne sera pas les mêmes. Mais voyez bien, au début des études sur la radioactivité, on s'est rendu compte qu'on pouvait en tirer de l'énergie. On s'est rendu compte, mais on ne se rendait pas compte des conséquences que l'on connaît aujourd'hui, des conséquences sur les mutations génétiques.
Ils ont fait quand même de super jolis essais, les Américains, je ne sais plus, à Los Alamos, où ils ont testé et tenté plus sur les populations locales, leurs soldats. Les Français en Algérie aussi. Ah, oh, c'est sympa.
Oui, il y a eu aussi beaucoup d'études sur les cas japonais.
Beaucoup d'études occultes.
C'est en quelle année exactement, tu sais?
Je sais qu'après Hiroshima et Nagasaki.
Oui, c'était après.
Non, mais avant, il y en a eu avant.
Ah, il y en a déjà eu avant.
Dans les essais à Los Alamos, il y avait des gens qui avaient été mis autour pour voir. Mais les plus rigolos, ça a été les bateaux qu'on a envoyés mouillés au large du Japon et qu'on a laissés se baigner dans les eaux irradiées exprès, et dont il ne reste plus personne, je crois. Mais ça a été fait exprès pour voir ce que ça donnait.
D'accord.
Super sympa.
Alors, je sais que c'était un certain Müller qui a un moment essayé d'étudier les mutations liées à la radioactivité. Ça, c'était dans les années 30 à peu près. Mais avant, je crois que 27, j'ai cherché tout à l'heure, ça devait être en 27 qu'on avait les premiers travaux. Mais avant, on ne devinait même pas que ça pouvait avoir des conséquences. Mais après, effectivement, je ne savais pas toutes ces histoires de tests sur les populations autour de...
Mais il y a aussi des Français, hein, en Algérie, oui, on fait des essais à in vivo, quoi. C'est-à-dire les gens n'étaient pas du tout protégés, ils étaient juste à côté, plein de militaires étaient irradiés, les populations locales, bon, ça c'est assez connu, on a vraiment au début, et peut-être par ignorance, hein, j'en sais rien.
Voilà, est-ce que c'était par ignorance, mais là visiblement ce que tu racontais, c'était pas par ignorance, Jeanne.
Le coup des bateaux,
ça c'était pas par ignorance.
C'était absolument pas l'ignorance.
Non.
Ils ont été suivis, notés, calibrés, enfin, et ça a été reconnu, hein. Je crois qu'il y a eu des procès là-dessus.
D'accord.
Oui, mais à Los Alamos, c'est une pensée fausse. Hein, il ne s'occupait pas des radiations.
Oui, oui, c'était pour étudier le souffle aussi. Oui. Mais je pense qu'on est à l'aube de la biotechnologie, de la nanotechnologie, c'est-à-dire que c'est la combinaison des infiniment petits maintenant. Et les infiniment petits, c'est les infinis leviers, enfin les infiniment petits leviers, sont infiniment puissants. Et là, je pense que le rôle des auteurs de science-fiction, c'est d'apporter une réflexion, parce que les impératifs économiques font qu'on n'a plus le temps de réfléchir à rien. Quoi. C'est-à-dire, là, on nous a imposé, la Commission européenne, quand même, les OGM, c'est-à-dire l'ouverture aux OGM en champ plein. Mm-hmm. Et donc, personne n'avait pris le temps de la réflexion, alors que ça engage une chaîne qui va se poursuivre à travers le temps. Et c'est ça qui me paraît... incroyable, c'est qu'on est à l'aube d'une ultra-puissance. Alors, tu parlais de Prométhée, c'est probablement ça, ce syndrome de Prométhée, c'est-à-dire aller chercher le feu auprès de Dieu, des dieux, et puis c'est comme si on possédait un secret, le secret carrément de la vie. Et d'un seul coup, on ne prend plus le temps de la réflexion, alors que ça engage, et c'est d'une puissance infinie, qu'on ne pourra pas l'arrêter, ça va donner une course folle. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et personne ne prend le temps de la réflexion, sauf les auteurs de science-fiction.
Justement, à propos, ce n'est pas juste pour Prométhée. Parce que le sens du mythe de Prométhée, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un, un être plus grand que nous, qui va se sacrifier, parce qu'il sait qu'il le fait en piquant la foudre aux dieux, pour protéger les hommes du long hiver qui arrive. Alors je suis désolée, c'est vrai que lui, il en meurt. Enfin, qu'il va en mourir sur l'éternité, puisqu'il va être attaché à son rocher et être dévoré tous les jours, son foie sera dévoré par un vautour. C'est pas ça, Prométhée. Hein. Prométhée, c'est pas le type qui invente un marteau et qui, au lieu de planter un clou, se tape sur le doigt. Non, non, c'est un type qui va se sacrifier pour sauver les hommes. C'est pas du tout le coup de la radioactivité, je suis désolée. À la limite, on pourrait dire que c'est Phaéton qui monte sur le char du soleil et qui se retrouve à brûler mers et rivières, tout ça parce qu'il voulait que papa soit papa. Ça, c'est le mythe du nucléaire. Mais c'est un contresens énorme que de dire, enfin, de mon point de vue, mais...
Oui, mais c'est ton...
Alors,
la volonté de la maîtrise de l'énergie, quoi. Moi, voilà. C'est ce que je voyais.
Ça, c'est
plutôt Fatal. D'accord.
Prométhée, il maîtrise rien. Il veut juste empêcher les hommes de crever de froid dans leur caverne.
C'est exactement ce que fait l'énergie nucléaire.
Certes, mais c'est pas les hommes qui en meurent, c'est lui.
Bon, alors, je voudrais revenir un peu sur le thème de la...
Parce que Marie Curie en est morte, parce que tous ces scientifiques ont approché...
Alors, d'accord, Marie Curie, c'est Prométhée.
Alors, maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose que disait Pierre Bordage, lorsqu'il parlait du travail des auteurs de science-fiction qui étaient à même, qui avaient la possibilité de prévenir et d'avertir un petit peu ce qui se passait. C'est pas ce qui a été fait quand même un petit peu tout au long du siècle dernier. Il y a quand même eu tout un tas de livres et tout un tas de thèmes qui ont été abordés autour du nucléaire.
Avec les textes que ça a donné, c'est-à-dire
oui, d'accord,
que tout
sans
le monde
effet,
s'en est foutu.
Non, moi j'ai dit.
Merci. Quand ça t'arrange, elle me rend le micro.
C'est terrible.
Oui, mais c'est évident que, parce que de toute façon, tous les auteurs, c'est le rôle des auteurs de SF, d'anticipation, de grimper, de se projeter dans l'espace-temps pour voir quels sont les courants qui traversent le monde actuel et de les grossir pour alerter ou au moins donner du grain à la réflexion à la société. Donc forcément que le problème énergétique... Je vais prendre l'exemple de la voiture, par exemple. L'exemple de la voiture a été vécu comme une très grande libération parce que chacun avec sa petite bagnole pouvait aller n'importe où. C'est devenu un cancer, un fléau total. C'est-à-dire que ça a fait les routes, ça a fait le pétrole, ça a fait la pollution, ça a fait un tas de trucs comme ça. Donc évidemment qu'on est un auteur, son rôle, et ça s'est fait à travers tout le temps, la biotechnologie, déjà Jacques en a parlé avec Le Meilleur des Mondes, et donc d'apporter la pierre à la réflexion sociale, mais comme dit Jeanne, on est peut-être plus un nombre de Cassandre aussi, on est peut-être condamné à parler sans que personne ne nous écoute, parce qu'encore une fois, on est balayé par les intérêts économiques, mais je pense que on doit continuer quand même à apporter notre pierre à la réflexion pour que on ait les éléments de comparaison, de réflexion, de réponse, on ne sait pas quoi.
Et les scientifiques alors, ils s'en servent de la science-fiction pour leur réflexion personnelle et leur travail?
En tous les cas, en tant que citoyenne, quoi, la lecture. Hein. Des risques liés au nucléaire m'a toujours interpellée. Après, dans mon travail, je ne suis pas directement dans un domaine lié au nucléaire, donc je peux pas faire de lien entre mon travail de scientifique et le domaine nucléaire.
Mais parlons plus généralement.
Oui, de façon plus générale, je crois que ça dépend vraiment des personnes. Dans le domaine des nanotechnologies, là où je suis plus concernée, je m'intéresse énormément à tout ce qui est controverse. Je fais le lien avec ce que je fais dans mon labo. Alors, je dois reconnaître qu'on est tous tellement spécialisés, on a des petits morceaux, on a des domaines très restreints, ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de faire partie de ce grand tout dont on parle au niveau de la controverse scientifique. Enfin, controverses citoyennes, sciences et citoyens. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que je suis aussi dans une association d'éducation, de culture scientifique, et au sein des petits débrouillards, je prends du recul par rapport à mon travail de scientifique, à mon rôle de scientifique dans la société. Et je me rends compte aussi qu'on fait reposer sur les épaules du scientifique des choses qui dépendent de toute une structure qui met en jeu le politique, l'économique, le citoyen aussi qui demande, qui a un besoin. Alors, on crée aussi ce besoin. C'est,
le désir, alors.
Voilà, il y a le besoin énergétique, le besoin de confort. Tout ça fait partie d'un tout. Il n'y a pas que le scientifique qui va décider, on-off, de créer quelque chose ou de ne pas le créer, ou de l'inventer, enfin, de découvrir et de le mettre au grand public ou pas. C'est une chaîne qui est beaucoup plus complexe.
Et est-ce que c'est justement parce que quand on n'a pas le nez collé à son labo,
qu'on ne voit pas tous les tenants et les aboutissants des choses, qu'on manque la réflexion globale, du coup. Est-ce que le fait que tout soit morcelé comme ça, que chacun fasse son petit truc dans son coin, est-ce que c'est pas un peu ça le rôle des auteurs, d'essayer de rassembler le tout et de voir, de le projeter dans le futur pour voir ce que ça peut donner?
C'est bien pour ça aussi que j'aime beaucoup non seulement venir, mais aussi discuter avec les auteurs de science-fiction, avec les artistes, pour voir comment on appréhende le progrès technologique dans son ensemble. Cela dit, au niveau de mon travail de chercheur, c'est très difficile de savoir ce qu'on peut chercher ou pas, puisque les connaissances sont là, mais les applications sont plus générales. En revanche, on peut avoir un rôle plus didactique. Je pensais au nucléaire.
C'est quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux scientifiques.
Oui, je suis bien d'accord. Non, mais exemple de choses qui est possible. Quand on commence à comprendre comment fonctionne une centrale, on peut mettre le paquet sur expliquer le danger. Il est au niveau du refroidissement. Et ça, c'est la partie fragile. Et ça, avant Fukushima, on ne nous en parlait pas.
Il y a 2 ans, il y a une centrale qui avait eu un problème de refroidissement en France à cause du faible niveau de la Loire et qui avait été ralenti. Ce problème avait été évoqué.
Mais alors,
géré.
D'accord. Oui, mais là c'était parce que en Russie, bien sûr, ils savaient pas entretenir, ils ont fait n'importe quoi, ils avaient dû boire trop de vodka, on nous a trouvé n'importe quoi comme exactement. Mais non, mais je suis volontairement un peu provoque parce que on nous a fait croire que c'était parce que bien sûr. C'était un pays qui avait mal géré.
Qui l'a cru, Carole, que ça suffisait à expliquer ça? Les gens qui ont pensé que le nuage s'arrêtait à la frontière.
Voilà, il y a eu ça. Et Tchernobyl a montré quand même qu'au niveau de la communication en France, on avait, on cachait certaines choses. Mais néanmoins, ça restait flou. Par contre, Fukushima, je trouve que ça a mis le point. Le coup du refroidissement, effectivement, il y avait peut-être eu 2-3 fois où on en a parlé, mais c'était dans un cercle restreint. Aujourd'hui, tout le monde sait que le point fragile, tu parles refroidissement central, attention, et maintenant ça fait tilt, on pense à Fukushima. C'est terrible, mais il a fallu en passer par là.
C'était pas déjà le cas, le problème à Fukushima?
Si, tout à fait, oui. Il semble bien. Oui, mais ils avaient réussi à maîtriser, et c'était pas devenu aussi. C'était au contraire montré. Vous voyez, malgré tous les problèmes qu'on a eus, on a réussi quand même à limiter les dégâts.
Ceci dit, je connaissais quelqu'un qui travaillait à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, qui était militant CGT, donc assez opposé à sa direction. Et il m'avait dit, si tu veux écrire un bouquin sur le nucléaire, je te passe des éléments. Et il m'avait envoyé des éléments qui étaient des échanges de téléx entre le ministère de l'Intérieur et le préfet. C'est des secrets d'État carrément, quoi. Entre donc le ministère et le préfet, et le préfet du coin. Et en disant que le taux de Becquerel dans la Loire était 1000 ou 2000 fois supérieur à la norme, tout à fait léger. Et que surtout, il fallait pas prévenir la population, parce que ça aurait créé des mouvements de panique tout à fait inutiles, etc. etc. Donc, c'était des fuites. Alors, je ne sais pas comment on peut faire des fuites dans des centrales aussi bien gouvernées que celles de la France, mais bien entretenues. Mais il y avait des fuites dans la Loire, et il ne fallait pas alerter la population. Donc, il y avait une culture du secret dont dans notre pays est très, très, très coutumier. Sur plein de plans, sur le plan historique, sur le plan scientifique, sur tout ça, il y a des espèces de secrets de milieu autorisé.
Il y avait du cul dedans, mais non, même pas.
Alors on va parler du cul dans le nucléaire après.
c'est fait avec les préservatifs qui
fluorescent la nuit. Voilà.
Ça doit être savoir en devenu intéressante.
Non, mais il y a des. En France, on a cette espèce de culture du milieu autorisé qui ne doit, donc d'où aucune information ne doit filtrer. Et j'en avais pris conscience à ce moment-là en voyant cette ouais. échange entre.
Je reconnais que en ayant participé, par exemple, au débat sur les nanos, au grand débat, il y a eu un sentiment, même moi qui me suis retrouvée un peu sur l'estrade quand ils sont passés à Strasbourg, j'ai eu l'impression de rien pouvoir dire. Mmh. Et disons d'être dans un format, on crée un débat, on donne l'impression de donner la parole pour ensuite dire, ben ça y est, c'est bon, vous avez pu parler, maintenant vous nous laissez tranquille.
Ça s'appelle la démocratie.
Oui, je sais. Cause toujours. Cause toujours. Et puis l'autre solution, c'est ferme ta gueule et voilà. Mais ça, toi, du côté, en tant que chercheur, je l'ai ressenti sur le débat sur les nanos. Alors que je fais des conférences tous les jours où je vais discuter avec les gens, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que je peux donner, mais...
Même Fukushima, parce que Fukushima, on a essayé de minimiser considérablement tout de suite, on a posé une sorte de filtre en disant... Mais le problème, c'est qu'il y a Internet maintenant, ce qui change complètement la donne. On ne peut plus retenir l'information, c'est terminé. L'information, si on la retient par là, va passer par là, et ça change considérablement la donne, parce que je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu Internet, là, on n'aurait jamais su... Les dégâts exacts de Fukushima. Et d'ailleurs, je compte qu'ils sont encore minorés par la communication officielle.
Mm-hmm. Le problème avec Internet, c'est que justement, tout ce qui fuit, on ne sait pas dans quel... On ne sait même plus traiter l'information maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est... Alors, entre les hurlements des antinucléaires hystériques et les secrets d'alcôve, comme tu disais tout à l'heure... La voie vers ce qui se passe réellement à Fukushima est quand même semée d'embûches. Moi, il y a des moments où j'ai envie de tout lâcher parce que plus rien n'est crédible. Ni les dénonciations, ni les tentatives de plaquage, sur la vérité. Il y a un moment où on se dit, bon, bah, tant pis, vivons heureux en attendant l'atome. Je crois que c'est la fin de Docteur Follamour ou quelque chose comme ça.
Alors, d'un autre côté, il n'y a pas de... Enfin, on dit où est la vérité, je crois que la vérité est tellement complexe, et les enjeux aussi, comment faire, on ne sait pas forcément quel est le meilleur choix entre tout arrêter, ne refuser tout progrès ou avancer dans certaines voies. Non, mais il y a un équilibre à trouver qui est délicat.
En revanche, le progrès, là, on ne peut plus l'attendre de l'atome.
Je crois qu'on en a pris, oui.
Voilà.
Oui.
Rien que le fait que les ressources minières soient en train de s'épuiser fait que l'atome c'est mort, là. En attendant nous, mais l'atome c'est fini.
Ceci dit, ce matin sur France Inter, il y avait Adlo Berchon qui disait tout à fait le contraire de ce que vous venez de dire. C'était intéressant parce que ce que vous venez de dire, je l'avais déjà entendu. Alors j'étais très surprise de l'entendre ce matin sur France Inter. Disant que les réserves d'uranium, il y en avait encore très longtemps, et qu'il y en avait dans beaucoup de pays, et que c'était pas un problème pour trouver l'uranium.
Moi qui me rassurais avec ça.
Je te le dis parce que
j'allais pleurer dans mon
appel. Je ne sais pas quelles sont l'étendue des réserves d'uranium, mais l'argument majoritaire central des partisans de l'énergie nucléaire tombe complètement à plat, parce qu'eux ils disent. L'énergie nucléaire, c'est l'indépendance énergétique. Or, c'est archi faux, puisque notre uranium, il n'y en a plus en France.
Oui.
Donc, on va le prendre. Oui, on va le chercher ailleurs, mais on va le chercher où ? On va le chercher au Niger, on va le chercher au Kazakhstan, on va le chercher au Canada.
Ici, en France, on l'enrichit.
Oui, mais imaginez que ces pays deviennent hostiles à la France. D'ailleurs, le prix de l'uranium, je crois, a été multiplié par 3 ces derniers temps. Et donc, on est dans le même phénomène que le pétrole.
Alors, à cela, elle répondait, parce que justement, il y avait quelqu'un qui lui disait cela. Il disait non, ça n'a pas beaucoup de répercussions que le prix de l'uranium monte, parce que, disait-elle, avec une petite quantité d'uranium, on peut en faire on peut multiplier, je ne sais pas.
Mais c'est la patronne d'Areva. Hein.
Oui, quand même.
Je fais l'avocat du diable, là, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit.
Oui.
Mais
toujours est-il que, bon, par exemple.
Des réparties et des réparties.
Imaginez que le Niger change de régime, devienne un régime totalitaire et
démocratique.
Ou démocratique.
Oui, c'est surtout ça. Le vrai risque, c'est que ces pays deviennent démocratiques.
Non, enfin, peu importe, voilà, c'est ça, un changement de politique d'un pays, Kazakhstan, là on a un autocrate qui a été reçu d'ailleurs en Hong Kong à l'Élysée uniquement pour l'énergie nucléaire, et que tout ça, qu'il y ait des révolutions, qu'il y ait des mouvements politiques, et qu'on n'ait plus cette énergie à disposition, la dépendance énergétique n'existe pas. On est obligé de traiter avec des pays, exactement comme le pétrole. Et cet argument-là, qui a été défendu longtemps par les tenants de l'énergie nucléaire, ne tient pas.
De toute façon, il faut bien aller chercher les matières premières quelque part. Oui. Donc, soit les pays sont suffisamment exsangues pour qu'on se permette de leur faire croire qu'on peut se servir comme ça, soit ils deviennent un peu plus démocratiques et se prennent en charge, et dans ce cas-là, ils demanderont le vrai prix. Donc, c'est absurde de dire qu'on est indépendant si on, dans ces conditions.
Bien, on est indépendant, mais on achète ailleurs. Ouais.
Voilà.
Bon, je suis vraiment désolé parce que.
Oui. J'ai lu dans un journal qui paraît le mercredi, c'est un hebdomadaire, qu'en Finlande, on construit à 500 mètres de profondeur des dizaines de tunnels, donc souterrains, et pour enfuir les déchets. Et ça s'appelle Onkalo, la cachette en finnois. Je ne connais pas du tout le finnois, hein, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et c'est pour les générations futures. Et je me disais que là, la science-fiction rejoint la science, parce que c'est en train de se faire. Et c'est pour les générations qui vont être dans des milliers et des milliers d'années, parce que les déchets sont faits pour durer là pendant des milliers d'années. Et ils se posent la question, est-ce qu'on va faire des marqueurs, disent-ils, pour signaler que c'est une zone où il y a le feu interdit, qu'il ne faut pas toucher. Hein. Et ils ont décidé au bout du compte qu'on ne fait pas de marqueur. Je ne sais pas si vous avez entendu
ça. Non, je n'ai pas entendu
ça. Moi, je n'ai pas entendu ça, mais je trouve ça d'un optimisme ébouriffant. L'idée qu'il y ait suffisamment devant nous de générations futures pour voir la fin du feu nucléaire dans Okalo.
D'ailleurs, dans un film de Michael Madsen qui s'appelle Into Eternity, ils en parlent de ça.
C'est, voilà, ben, compte tenu de ce que je vois, je crains que les générations futures seront des générations de lézards ou de cafards. J'espère que ce sera des lézards à gros seins, puisque dans la science-fiction, on les aime beaucoup. Voilà.
Ouais, mais ils vont être irradiés quand même.
Bah tant pis,
mais quand même.
Des sans fluo, je trouve que c'est
bien. Yeah, je vous remercie beaucoup d'être intervenu si brillamment. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés. Nous allons laisser la place maintenant à une discussion sur les blogs, Twitter, Merci beaucoup. Bon, merci.